dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la ville, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour ce Canu Info du jeudi 27 octobre. Ce soir, nous allons vous parler de plein de choses. Parallèlement à tout ça, la mise à l'abri des migrants de la jungle de Calais se passe bien. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit du côté du gouvernement. Pas de problème. Alors, une mise à l'abri très médiatisée. Hein. 800 journalistes, t'ont appris, qui avaient des accréditations. Et oui, parce que pour suivre cette mise à l'abri, il fallait un petit badge. On a aussi appris par la CIMAD que près de 90 migrants ont été placés en centre de rétention plutôt que dans ces centres d'accueil et d'orientation. Mais tout va bien, nous dit le gouvernement. Tout va bien, nous sommes des humanistes, c'est ce qu'on a pu entendre de la part de ce gouvernement. C'est vrai que entre humaniste et humanitaire, c'est un peu les termes hein, employés. Tout se passe bien, donc, puisque la main elle est sur le cœur de la part de l'État français qui va pouvoir loger correctement tous ces migrants et débarrasser la jungle de Calais de tous ces migrants, hein, parce que évidemment l'un ne va pas sans l'autre, le bien-être et le débarras, il fallait nettoyer. Bon, il paraît que tout va bien, hein, puisque même chez nous tout va bien. Monsieur Delpouche, le préfet de région, a accueilli 28 personnes. Oh là là, ça y est, c'est incroyable. Le cœur sur la main aussi dans notre belle région. Bon. Heureusement, d'autres devraient arriver, pour ceux et celles qui avaient envie d'être accueillis un peu mieux que dans un bidonville, mais enfin 28 pour l'instant, avec dans toutes les régions, hein, les préfets et les préfètes se sont déplacés, mais enfin moi j'ai retenu ce chiffre impressionnant de 3800 personnes qui sont mortes en mer Méditerranée depuis le début de l'année en tentant de rallier les côtes européennes. 3800, c'est un record, un nouveau à chaque fois, c'est des nouveaux records. Un nombre assez impressionnant, alors que d'autres, il faut bien le dire, manifestent. Je crois que c'est de ça que tu voulais nous parler.
Oui, on va ouvrir ce Canu Info avec cette info autour de ce qui se passe avec la police. On découvre une fois de plus que nous, vous et moi, sommes des citoyens de seconde zone, de seconde catégorie, face à des flics qui, eux, sont des citoyens de première catégorie, puisque dans cette belle démocratie, il y a une échelle dans les citoyens, on passe tous les mêmes droits, les mêmes devoirs, une échelle de valeurs, une échelle de représentation, une échelle de plein de choses. Vous avez pu vous rendre compte que les manifestations, qui sont toujours interdites, ont toujours lieu, les manifestations des flics. Ils sont en partie avec des capuches, avec des visages cachés, bizarrement. C'est ce qu'ils dénonçaient lors des manifs contre la loi travail, en disant que c'était pas normal qu'il y ait des jeunes, que les médias qualifiaient souvent de casseurs d'ailleurs, qui soient avec des capuches et des visages cassés. Bizarrement, les flics font pareil, mais quand c'est les flics, c'est bien. D'ailleurs, aucun média ne le dénonce. Donc les flics, effectivement, ont des droits que nous n'avons pas. Donc c'est interdit, ils ne respectent pas la loi, mais personne ne fait rien, l'État ne fait rien, la justice ne fait rien. Il y a une impunité quasi totale pour ces policiers hors la loi. On notera qu'ils défilent, en plus, pour certains, armés. En France, jusqu'à preuve du contraire, dans les manifestations, on n'a pas le droit d'avoir des armes, notamment des armes à feu. Ben, la police, elle a ce droit-là, en tout cas elle prend ce droit. Voilà, on pourrait discuter des heures sur la constatation de toutes ces inégalités que met en œuvre les manifestations de police. C'est juste pour nous montrer que voilà, eux ils sont des citoyens supérieurs et nous, pauvres clampins, pauvres animateurs de Radio Canu, pauvres militants, pauvres salariés, pauvres tout ce que vous voulez, nous sommes que des sous-citoyens qui n'avons aucun de ces droits que s'accapare illégalement la police. Alors, conséquence de ces manifs illégales, on va revenir à travers différentes informations. La première concerne les cadeaux que Bernard Cazeneuve, le ministre de la police, justement, de l'Intérieur, pour le terme officiel, a donné aux policiers, puisqu'ils leur ont donné une enveloppe avec 240 millions d'euros dedans. Alors bien sûr c'est une image, on leur donne pas une enveloppe avec de l'argent. Voilà, ça concerne essentiellement les flics de base, ce qui paraît que c'est eux qui sont dans la rue. Donc ça va leur donner des nouvelles tenues, des nouvelles voitures, de nouveaux matériels. Voilà, ils ont annoncé aussi, peut-être, je dis peut-être parce que rien n'est sûr, mais ça devrait se négocier comme ça, la fin de ce que les flics appellent des missions indues, c'est-à-dire quand ils sont en train de poireauter pour protéger les tribunaux, les préfectures, certaines personnes, certains lieux. Donc ça, ils en veulent plus parce qu'ils estiment que c'est pas leur mission. On rappelle que c'est ce que le syndicat Alliance avait demandé quelques jours ou quelques semaines avant l'attentat à Charlie Hebdo, parce qu'ils en avaient marre de poireauter devant Charlie Hebdo. Ben voilà, on sait ce qui s'est passé derrière. Hein. Les flics ne voulaient plus protéger Charlie Hebdo. Et ben, Charlie Hebdo a été massacré. Voilà, donc ça va peut-être leur être enlevé. La deuxième question, c'est sur la fameuse légitime défense. Les policiers veulent une réforme de cette légitime défense pour la transformer en légitime agression, hein, puisque c'est de ça dont il est question. C'est une vieille revendication des forces de répression. Alors là, le garde des Sceaux, lui, a déclaré, c'était mercredi, qu'il comptait pas bouger. Donc ça va être en négociation avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, donc, et les syndicats de flics. Voilà. Par contre, il y a des évolutions qui vont pas dans notre sens à nous, simples citoyens, puisque les flics vont être encore plus protégés, notamment juridiquement, puisqu'il y a le projet d'aligner le régime juridique des policiers sur celui des magistrats, notamment sur celui de l'outrage à magistrat, qui est beaucoup plus sévère, puisque quand on fait un outrage à un policier, on risquera, si ça se confirme, 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Voilà, les flics dénoncent toujours une légèreté de la police, de la justice plutôt. Ben là, ils auront les moyens. Si quelqu'un n'est pas content de la police et qu'il leur dit, il risquera 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Ça fait écho à ce que je vais vous raconter tout à l'heure sur Radio Canu, d'ailleurs, justement. Voire plus, d'ailleurs. Ce qu'on notera, c'est que cet outrage à magistrat, qui va devenir donc l'outrage aux policiers, l'inverse n'existe pas. Hein, l'outrage à simple citoyen, presque esclave, que nous sommes tous et toutes, n'existe pas. Hein, on a bien plein d'études qui dénoncent les contrôles aux faciès, le racisme d'État mis en place par la police. Hein, quand vous êtes noir, vous avez X chance ou malchance d'être contrôlé, alors que quand vous êtes blanc et vieux, d'ailleurs, beaucoup moins de chance, etc. Tout ce racisme-là, tous ces outrages permanents que vivent certaines parties de la population, eux, ils ont bien évidemment aucun droit à faire valoir devant la justice, puisque ils ne sont pas écoutés, alors que les flics qui manifestent sont, eux, écoutés. Voilà donc en gros ce qui se négocie en ce moment entre les flics. Alors la question qui se pose, d'où vient ces manifs, qu'est-ce qui se passe? Alors on a une bonne idée, hein, puisqu'il y a quand même une énorme instrumentalisation et préparation des manifs de la part de pas mal de gens, membres ou proches du Front National. Hein, ça a été découvert la semaine dernière par des médias, d'ailleurs des gros médias dominants, hein, qui ont découvert qu'un des porte-parole autoproclamés des flics à Paris n'était même pas flic. C'était juste un employé de la grande distribution qui était proche, très très proche du Front National, hein, il s'était présenté sur une liste de Front National à Paris dans le 18e. Et puis, y a plein d'exemples, je ne vais pas tous les donner. Le deuxième que je vais donner, c'est hier, à midi, une manif à Bayonne, devant le commissariat de Bayonne, conjointe d'une trentaine d'adhérents du FN et une centaine de flics. Donc voilà, il y a une instrumentalisation, une volonté de déstabilisation. On a presque cru un coup d'État, hein, quand ils sont arrivés devant les instances de la République française, notamment le Parlement, où ils se sont approchés à Paris dans les manifestations proches de la présidence de la République. Ça a failli être un coup d'État. Ça n'est pas allé jusque-là, mais c'est pas passé loin du tout. Donc il y a une vraie instrumentalisation politique. Ces flics sont manipulés, soit volontairement, ceux qui sont dedans, qui choisissent de suivre le mouvement, donc a priori propulsé par des gens proches ou membres du Front National, et les autres, ils se laissent manipuler par leurs bêtises, vraisemblablement, même s'il y a peut-être des revendications qui restent judicieuses sur la pauvreté de certains services publics. Je ne suis pas sûr que la police soit le moins bien dotée des services publics, d'ailleurs. Hein, ça serait une question à rediscuter. Alors, dans les conséquences, eh ben, il y en a une qui s'est fait, qui est apparue tout de suite. C'est bien évidemment Laurent Wauquiez qui l'a mise. Alors c'est pas le premier, mais lui, on va en parler puisque c'est le président de notre chère région. Parce que lundi soir, il a, à l'issue d'une réunion avec le syndicat de police Alliance, hein, syndicat très à droite, proposé une mesure importante, la gratuité des trains régionaux pour les flics. Donc voilà, ça va être voté et proposé au vote d'abord et sûrement voté très bientôt. Donc une nouvelle discrimination, hein, puisque nous, simples citoyens, nous devons payer les trains régionaux. Les flics, eux, ne paieront pas. Alors l'idée, hein, c'est que quand il y a un flic dans un train, comme ils vont bientôt obtenir le droit de se balader avec leur Kalachnikov ou leurs armes, hein, mais ils ont peut-être pas de Kalachnikov, mais ils ont des armes tout aussi destructrices, eh ben ça fait de la sécurité en plus. Ouais, et ben ça sera à rediscuter. En tout cas, une belle discrimination mise en place par Laurent Wauquiez. On peut parler des conséquences indirectes, bah, celles qui sur Radio Canu, puisque c'est officiel maintenant. Il y a le petit mot qui a été mis sur le site de Radio Canu, puisque Radio Canu a subi mardi matin une perquisition. Ils ont écouté les piges, ces enregistrements que la radio est obligée de faire pour le CSA, puisque la semaine dernière, dans une émission du jeudi soir, des animateurs sont allés un petit peu loin dans leurs propos. Donc une plainte a été déposée pour provocation au terrorisme. Donc, tout à l'heure je parlais des 1 an et des 15 000 euros d'amende. Ça c'est quand on ne respecte pas un flic. Là ça va beaucoup plus loin, la provocation au terrorisme. Donc le président qui anime cette émission a été entendu comme témoin, puisqu'il n'est pas l'auteur des propos. La radio n'est pas poursuivie d'ailleurs en tant que telle. Les deux animateurs, eux, ont été convoqués par les flics en garde à vue. Ils sont, enfin, le dernier ressorti, je crois, ce matin. Donc lui, enfin voilà, eux, ils sont poursuivis pour ses propos. Alors les propos qui sont pas des plus intelligents, certes, hein, qui appelaient aux dépressifs, aux kamikazes, d'aller se faire sauter au milieu de la manif de Bellecour qui avait lieu en même temps, manif illégale, on rappelle, hein, quand même. Alors leurs propos étaient totalement illégaux, même si ça s'approchait du second degré, c'était pas une injonction avec un discours politique construit, on était bien dans le second degré, certes de très très mauvais goût et très mal placé. Par contre, donc il y a dépôt de plainte, par contre la manif de flics, elle, qui était elle aussi illégale, hein, au terme de la loi, finalement, il y avait égalité d'illégalité. La manif, bien sûr, les flics sont pas poursuivis, hein, parce qu'on reste dans le traitement inégal. Donc voilà, alors les animateurs risquent, j'imagine, pas mal. On vous tiendra au courant quand on aura plus d'infos. La justice va mettre peut-être du temps, hein, des fois elle est un petit peu lente. En tout cas, celui qui est responsable des propos a l'interdiction d'animer, de participer à une émission de Radio Canu jusqu'au procès. Donc si le procès est dans 3 ans, bah, il est privé d'émission pendant 3 ans. On notera que le plus gros risque pour la radio, c'est le CSA, qui pour l'instant ne s'est pas exprimé, quand le CSA s'exprimera, il y a un risque pour la radio d'être interdite ou d'avoir au moins une mise en demeure. Donc voilà, nous devons contrôler nos propos, effectivement, nous n'incitons pas donc à aller se faire sauter au milieu des flics. Par contre, nous incitons au respect de la loi quand ça concerne les flics, parce que ça nous arrange un petit peu. On nous reproche assez souvent, nous, en tant que militants et manifestants, de pas toujours respecter la loi quand on fait des manifs illégales. Bizarrement, la justice ne le reproche pas aux flics. Pourtant, les textes de loi sont les mêmes, voire sont même plus durs pour les flics sur les manifestations. Alors toujours dans les liens avec la répression policière et l'inégalité des citoyens face à la justice et à la police, la dernière info, ça sera sur l'enquête au sujet de la mort d'Amada Traoré. On en avait parlé, vous savez, il a été tué lors de son interpellation par des gendarmes en juillet dernier. Donc il y a, on avait parlé ici dans Scanu Info de la version du sapeur-pompier, c'était en septembre, qui contredisait les propos de la police, qui disait que il l'avait arrêté, il l'avait mis à terre, il avait eu du mal à respirer, qu'il l'avait mis tout de suite en position latérale de sécurité. Le pompier dit que c'est pas vrai du tout, que quand il est arrivé, le jeune Adama Traoré était bien allongé sur le ventre. Donc s'ils ont fait une compression, ils ont très bien pu être responsables de sa mort. Pour l'instant, rien n'est fait contre ces policiers qui ont donc peut-être fait mourir monsieur Traoré. Et la justice faisait rien non plus, et la famille est arrivée à obtenir le dépaysement, comme on dit dans les termes juridiques, c'est-à-dire que l'enquête va être enfin confiée à un procureur qui va peut-être faire son travail correctement, puisque ça va passer à Paris. Donc il y aura peut-être enfin des choses qui vont bouger, puisque il y a des analyses contradictoires. Il y a une autopsie qui a dit qu'il y avait quand même un syndrome asphyxique, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort naturellement. Donc on attend maintenant les poursuites, puisque s'il n'est pas mort naturellement, qu'il y a ce syndrome asphyxique, il devrait se passer quelque chose. Voilà, donc il y a un petit espoir quand même qui est très très faible, parce que on sait très bien que la justice reste, quoi qu'en disent les policiers qui la trouvent trop clémente. Oui, elle est très très clémente envers les violences policières, ça nous le constatons depuis de nombreuses années, même si nous sommes aujourd'hui le 27 octobre et c'était il y a 10 jours l'anniversaire du 17 octobre 61, si je ne me trompe pas, c'est peut-être 62 mais je crois que c'est 61, où les policiers ont tué plusieurs centaines de personnes sans jamais qu'il n'y ait eu aucune poursuite. C'était à Paris lors d'une manifestation.
Alors on va parler des barbares, c'est-à-dire ces États qui assassinent, qui pratiquent la peine de mort. Alors j'ai une bonne
et une mauvaise nouvelle.
On va commencer par la bonne, si vous voulez bien. Je me sens d'humeur optimiste quand même ce soir. Positivons, comme disait l'autre. Alors, monsieur le président Kenyatta, le président du Kenya, a commué toutes les peines capitales en prison à vie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il faut savoir qu'au Kenya, il n'y a pas eu d'exécution depuis 1987. La bonne nouvelle, c'est que ça concerne un certain nombre de détenus. Alors vous allez me dire combien ? 12 ? 52 ? 276 ? 857 ? Non, ça concerne 2747
Ça
personnes.
Fait beaucoup quand même.
Qui étaient dans le couloir de la mort, enfin qui sont encore le temps qu'ils changent de couloir. 92 femmes parmi ces 2747 détenus, donc c'est pas une petite affaire, c'est une très belle affaire. Parallèlement à ça, le président du Kenya a gracié et libéré 102 détenus qui purgeaient de longues peines de prison. C'est une bonne nouvelle, mais c'est pas l'abolition non plus, parce que le problème c'est que quand la peine de mort elle est toujours là, on n'est pas à l'abri à ce que y a un chef un jour qui revienne et qui remette en route cette peine de mort avec un claquement de doigts. Mais bon, c'est au Kenya pas la première fois. Déjà en 2009, il y avait eu une commutation de nombreuses peines de mort en prison à vie. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Il reste encore le dernier pas à franchir. Et alors la mauvaise.
Ah.
La mauvaise, c'est au Pakistan. Ça concerne un homme condamné à mort pour meurtre en 2002. Il s'appelle Imdad Ali. Et pendant sa détention, il a été diagnostiqué schizophrène. Ses avocats, les ONG des droits de l'homme, rappellent qu'il ne comprend pas son crime, il ne comprend pas son châtiment. Donc, par là, il ne devrait pas être exécuté. Et ben, la Cour suprême du Pakistan a estimé dans une décision rendue aujourd'hui, que la schizophrénie était un déséquilibre exacerbé par le stress et que tout cela pouvait donc se soigner. Et donc, comme c'est une maladie curable et non un trouble psychique permanent, Imdad Ali peut être exécuté. Alors ça devrait avoir lieu la semaine prochaine. On rappelle qu'au Pakistan, il y avait un moratoire sur la peine de mort. C'est pour ça que je vous dis que c'est important qu'on aille jusqu'au dernier pas, c'est-à-dire jusqu'à l'abolition. Et puis ce moratoire a été levé. Alors d'abord pour les faits de terrorisme, et puis maintenant c'est pour les crimes de droit commun. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il suffit que les chefs en place décident de remettre tout ça en route. Et ben souvent il y a tout qui prend. C'est-à-dire qu'on n'en reste pas simplement au terrorisme. Il y a 400 personnes déjà qui ont été exécutées sur 8000 personnes qui se trouvent dans les couloirs de la mort. Ce sont des chiffres absolument faramineux.
Alors on va revenir...
On va parler des Belges et des Wallons.
Oui, tout à fait. On va parler des Belges et des Wallons qui nous ont donné un immense espoir qui est retombé comme un soufflet, vous savez, quand le soufflet retombe. Puisqu'on a appris aujourd'hui que le Premier ministre belge, Charles Michel, officiellement, que les représentations des différentes régions de la Belgique s'étaient entendues sur un projet de traité avec le Canada. C'est le fameux CETA là, qui est en cours de négociation. Donc au départ, c'était la Wallonie, Bruxelles capitale et la communauté linguistique française de Belgique qui avaient mis leur veto, enfin qui avaient dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce traité, avec le CETA. Et ça bloquait donc la signature du CETA par la Belgique et en conséquence par l'Union européenne, puisque tous les pays doivent voter tout ça par l'Union européenne. Donc on notera au passage que les traîtres socialistes qui nous gouvernent avaient bien voté pour le CETA au nom de la France. On savait que les pressions étaient fortes, il y a eu des négociations et on a appris qu'ils allaient accepter. Alors en fait ils ont fait des propositions de modification de quelques petites parties, pas très importantes en fait, mais un peu sur l'agriculture et sur les services publics. Et le reste des pays européens vont l'accepter ou pas. De toute façon, ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Et puis, ça va être négocié avec le Canada. Justin Trudeau, le Premier ministre, devait venir aujourd'hui signer ce traité. Donc, ça a été annulé. Ça va être malheureusement que repoussé. Alors, je vais revenir juste que c'est que le CETA, c'est un accord de libre-échange. L'objectif des accords de libre-échange, d'augmenter les échanges commerciaux. Et simplement commerciaux. Et ça ne concerne que les grosses entreprises et les multinationales. Les trois objectifs principaux, c'est supprimer les droits de douane, harmoniser les réglementations, notamment celles qui protègent la santé des citoyens, celles qui protègent l'environnement. Alors quand on dit harmoniser, c'est qu'on le seul moyen d'harmoniser en général, sans négociation, parce qu'il n'y a pas de négociation, c'est de se mettre sur celle qui est le plus bas. C'est comme ça que ça se passe en général. Et puis le troisième objectif, c'est de conférer des droits très importants aux multinationales avec les fameux tribunaux dont je vais revenir juste dans 2 minutes pour expliquer ce que c'est. Donc voilà, donc c'est un peu ça ce qu'il y a dans le CETA. Donc dans les quelques points que je vais redévelopper sur le CETA pour vous rappeler qu'on sait bien, on va bien vraiment se faire avoir. Donc c'est un peu la même chose qui est négocié en ce moment avec le TAFTA, même si paraît que le TAFTA est arrêté, mais bon, ça semble plus de la propagande qu'autre chose. On va attendre de voir ce qui va venir. Il y a ces fameux tribunaux sur l'arbitrage des différends entre les investisseurs, c'est-à-dire les entreprises et les États. Donc ces mécanismes permettent aux entreprises de déposer plainte quand ils estiment que quelque chose limite leur vente et leur capacité commerciale. C'est quelque chose, ça peut être une loi contre un produit dangereux, ça peut être l'amiante, le tabac, l'alcool, ça peut être une loi de protection de l'environnement, ça peut être une loi de protection de la santé des citoyens, une loi contre les OGM, des choses comme ça. Une fois que ces accords sont signés, ils déposent plainte auprès de ces tribunaux, alors à savoir que les États n'ont pas le droit de déposer plainte, ça marche que dans un sens, et ils font basculer les États, puisque les les condamnations se chiffrent jusqu'à en millions, voire en milliards. Donc les États sont obligés de payer des amendes. Par exemple, hein, l'exemple le plus flagrant qui a eu lieu, c'était les lois sur le tabac. Donc en Amérique du Sud, hein, faut savoir que ces tribunaux existent déjà à travers 3200 accords signés dans le monde. Donc ça a été notamment avec l'Amérique du Sud où ça a été beaucoup mis en avant, hein, avec l'Uruguay, où voilà, Philip Morris a porté plainte et a gagné 25 millions de dollars. Pourquoi ? Parce que l'Uruguay avait fait des campagnes contre le tabac, parce que effectivement le tabac c'est quand même en France, hein, par exemple, la première cause de mortalité. Donc ça, on n'a plus le droit une fois que c'est signé, ce genre de truc. Hein. Donc tout ce qui limite le commerce, et si on regarde, la majorité des choses qui limitent le commerce aujourd'hui, c'est la protection de l'environnement, la protection de la santé des citoyens, la protection de la santé des travailleurs. Donc c'est sur ces plans-là qu'on recule. Voilà. Alors ça se retrouve au niveau de la fameuse coopération réglementaire, hein, puisqu'on aligne les lois sur celles qui sont le plus favorables au commerce, avec la disparition du principe de précaution, des choses comme ça. L'idée de supprimer les tarifs douaniers, par exemple, ça permet, s'accompagne en fait en général, alors c'est quelqu'un dans le CETA, d'une quantité, d'un quota en fait de choses qui vont être vendues, notamment sur l'agriculture. L'idée, c'est qu'on voilà, on achète en Europe beaucoup plus de viande bovine qui viendrait du Canada, et nous, on leur revendrait par exemple du fromage. Hein. C'est complètement aberrant. Notamment en lien avec les accords qui ont été signés, notamment par le Canada et la France, sur la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Il est quand même complètement inimaginable, du point de vue environnemental, de prendre un veau élevé en France, d'aller le vendre au Canada, puis de prendre un veau au Canada et de venir le vendre en France. C'est ce qui se passe dans les accords, en fait. Hein, les marchandises circulent. Or, au niveau de la protection de l'environnement, moins les marchandises circulent, mieux c'est. Bien évidemment, ce genre d'accord économique est à l'opposé totalement des accords de protection de l'environnement et ne respecte pas le dernier accord voté en date, qui est l'accord de Paris, hein, qui a été ratifié par la France et le Canada, mais ça on s'en fout, on le respecte pas. De toute façon, c'est des accords qui sont juste faits pour faire plaisir aux médias et faire de la propagande, mais ça ne va malheureusement pas plus loin. Et puis le dernier volet, c'est sur les services publics, puisque dans cet accord-là, notamment, il y a l'idée de privatiser le maximum de services publics. Alors c'est un accord qui fonctionne sur le principe de la liste négative, c'est-à-dire que par principe, tout est privatisable, sauf ce qu'on a listé. Alors si vous oubliez d'en lister un, vous êtes mort, hein, puisque c'est une liste négative et c'est pas l'inverse. Ce serait beaucoup plus protecteur des services publics et des citoyens si c'était une liste positive où on dit voilà, vous avez le droit d'avoir des services privés en concurrence des services publics sur tel domaine ou tel domaine, mais non. Voilà, donc c'est une chose où on se fait largement avoir. Et malheureusement, c'était tous mis derrière quand même les wallons et... Et voilà, ils ont plié. Alors c'était pas non plus des écolos acharnés ou des personnes un peu respectables. Bon, voilà, ça a été plié suite aux pressions ou à je ne sais quoi. C'est la mauvaise nouvelle du jour quand même.
Alors je voudrais revenir sur cette cyberattaque qui a touché le web vendredi dernier. Une attaque qui a bien perturbé le fonctionnement de nombreux sites. Alors, au départ, l'attaque était localisée dans la partie nord-est des États-Unis. Plus tard, les problèmes se sont étendus à la côte ouest, puis ça a touché l'Europe, dont la France, dans la soirée de vendredi. Alors pendant plus de 10 heures, des sites ont été inaccessibles, complètement inaccessibles. Alors ce qu'on sait pour l'instant, d'après les renseignements des États-Unis d'Amérique, c'est que ça ne serait pas une attaque qui viendrait d'un groupe...
politique, tu veux dire ?
D'un État plutôt. Ouais. Pour l'instant, ils pensent que c'est pas voilà. Donc on ne sait pas bien pour l'instant qui c'est, parce que souvent on va penser maintenant à la Chine, à la Corée du Nord ou à la Russie. Bon, là du côté des renseignements, on cherche encore. Alors comment ça s'est passé tout ça? Alors, il faut bien se rendre compte que ce sont pas les sites qui ont été rendus inaccessibles, c'est pas eux qui étaient visés par l'attaque. L'attaque, elle a pris la forme d'un déni de service.
Donc on fait énormément de demandes sur certains sites pour faire tomber le système.
Et c'est exactement ça. Et alors en fait, les joyeux pirates s'en sont pris à la société DIN, qui est spécialisée dans l'hébergement de serveurs DNS.
C'est l'intermédiaire du coup entre votre ordinateur et le serveur.
Voilà, et donc c'est ce qui vous permet d'avoir accès au site internet et au site internet d'exister, hein, ça marche dans ce sens aussi. Et à côté de ça, les joyeux pirates se sont appuyés sur un réseau de machines zombies sur lesquelles ils ont pris la main, hein, à l'insu du plein gré des propriétaires. Alors, toute cette affaire avait révélé que ce sont essentiellement les objets connectés qui ont servi de biais.
Alors c'est plutôt nouveau, parce que d'habitude c'est plutôt les ordinateurs.
Exactement, les ordinateurs commencent malgré tout à être bien protégés, en particulier dans certaines entreprises, mais c'est vrai que tout un chacun commence un petit peu à faire attention à son matériel, même si tout ça n'est pas parfait, bien évidemment. Mais là, c'est les caméras de surveillance, des téléviseurs, même les frigos, hein, qui ont pu servir. Moi, je trouve ça absolument génial, il faut bien le dire quand même, que mon frigo puisse servir à des hackers.
Non, t'as un frigo connecté ?
Pas du tout. pas du tout, mais potentiellement, vous voyez l'idée, je trouve ça magnifique. Alors, évidemment, hein, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a plusieurs milliards d'objets connectés en service. C'est un truc de dingue. Donc, il y a une prolifération qui multiplie les possibilités de piratage. Comme tu le disais jusqu'à présent, bah, c'était via les ordinateurs. Donc, la donne, ça se modifie un petit peu, tout ça. Alors, les joyeux pirates ont utilisé un malware qui s'appelle Mirai, en français. Alors, ça permet de scanner le réseau et de trouver les objets connectés vulnérables. Parce qu'il faut savoir qu'en général, quand les gens ont des objets connectés, ils changent pas les mots de passe parce qu'on s'en fout comment sa télé ou son frigo, on se dit tiens, ça va servir à un hacker, on se pose pas la question, donc on touche à rien, on laisse les mots de passe fabricant et puis tout va bien. Et ben voilà, ce petit malware lui a trouvé la faille. Alors en plus, il faut savoir que le créateur de ce petit malware a rendu tout ça en public, hein,
open source,
en open source. Donc c'est très pratique pour les joyeux pirates. Alors les sites qui ont été concernés sont nombreux, hein, puisqu'on a parlé de Twitter, de Netflix, de Spotify, de PlayStation Network, d'Airbnb, d'Amazon, d'eBay, de CNN, du New York Times, du Boston Globe, du Financial Times, de The Guardian. Et tout ça a été donc tout bloqué. Alors, à un moment, les sites ont pu revenir, excusez-moi, je suis en train de m'étrangler, en ligne, mais il y avait des bouts qui manquaient encore, et puis peu à peu, c'est revenu. Mais ce qui est très drôle, c'est que la société Dyn a fait savoir qu'elle avait été attaquée à un moment. Et puis, elle fait savoir que tout va bien. Et puis, à un moment, elle refait savoir que ça va plus. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ça a été un peu, vous voyez un peu l'idée. Ce qu'il faut aussi analyser derrière, c'est quel impact économique cette opération a pu avoir, parce que c'est plusieurs heures hors ligne pour des sites commerciaux. Donc, c'est une perte brute dans le chiffre d'affaires, comme diraient certains. Voilà, mais en tout cas, une cyberattaque quand même... rondement menée, il faut le dire, et on attend un petit peu quand même avec curiosité de savoir qui a fait tout ça. Alors, j'avais envie de revenir sur cette grève à ITélé quand même, hein, parce qu'on s'éclate dans le groupe Bolloré. Alors, il faut bien se dire que ITélé, c'est quand même un peu, pour l'instant, l'arbre qui cache la forêt avec le groupe Bolloré, puisque on s'intéresse pas bien aux autres entités, hein, de cette multinationale. Par exemple, bon, on peut pas dire que Direct Matin ait beaucoup rapporté la catastrophe ferroviaire
au Cameroun.
Non, pas du tout.
C'est un train Bolloré.
C'est ça.
Et tous les journaux télé, tous les médias Bolloré, en fait, ont minimisé, soit carrément pas parlé.
C'est ça.
De cet accident de train.
Moi, je note juste que, paraît-il que le train allait trop vite, l'enquête, en tout cas, a été très, 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 très rapide. Alors, pour revenir à ITélé, c'est génial, c'est croustillant tout ça quand même. On a donc des journalistes en grève, 11e journée, hein, la rédaction de la chaîne d'information a voté aujourd'hui la reconduction de la grève jusqu'à vendredi midi à 76%, pratiquement 77%, 90 voix pour, 5 voix contre, 22 abstentions, pour vous donner les chiffres. Alors, ça s'est passé ce week-end, samedi. Certains et certaines sont allés au bureau et ont eu la joie de découvrir leurs affaires dans les poubelles. Et oui, il fallait faire de la place pour faire venir les équipes de Direct Matin, puisque l'idée de M. Bolloré, c'est de concentrer tout cela en une même rédaction. Donc pour faire de la place aux nouveaux arrivants dans les locaux, on a viré les affaires des autres, hein, vous voyez un petit peu. Donc il paraît que certains et certaines sont allés récupérer leurs affaires dans les bennes quand même. Hein. Non mais c'est les affaires personnelles des gens. Hein. Enfin, moi je trouve ça extrêmement... violent, hein, c'est le terme quand même. Alors bon, d'après la direction, c'est la faute des déménageurs. Hein. Voilà, c'est toujours la faute des autres, il faut bien trouver des coupables. Les déménageurs se seraient trompés, Hein, ils n'ont donc pas eu de consigne, c'est bien connu. Quand on signe un contrat avec des ménageurs, on lui dit rien, il fait comme il veut, il rentre chez vous, on ferme les yeux et puis tout va bien. Mais alors à côté de ça, il faut quand même savoir que mercredi, ce sont les badges des pigistes qui ont été désactivés. Alors depuis, ils ont récupéré leurs badges activés, hein, puisque ça s'est un petit peu énervé en interne. Mais voilà, c'est une succession quand même de petites choses hein, qui font violence au sein d'ITélé. Et puis il y a eu ce truc hyper drôle. Alors, Monsieur Bolloré a décidé d'appeler cette nouvelle rédaction The New Factory. News Factory, il n'y a pas The devant. News Factory. Donc, l'idée est de poser une nouvelle enseigne hein, sur la façade. Alors, à 15h, il y a le O qui s'est barré. À 16h40, c'est le E qui est tombé. Heureusement, personne n'a été blessé, je vous rassure.
Ouais, c'est pas Bolloré lui-même qui a fait ça.
Non, il paraît que c'est la faute du prestataire. Là, il faut bien un coupable. Hein. Tout se passe mal.
Là, ça paraît plus logique quand même.
Oui, mais enfin, bon, hein, quand même, quelle idée aussi d'aller mettre une enseigne en pleine grève quand même.
Oui, c'est un peu provoque.
Non. Non, non, monsieur Bolloré n'est jamais dans la provocation. Alors du côté des journalistes, on commence un petit peu à s'énerver. Il faut savoir qu'ils ont quand même demandé au ministère de la Culture d'intervenir pour l'instant pour faire venir un médiateur. Hein. Le ministère de la Culture n'a toujours pas répondu. On fait un petit peu remarquer aussi qu'il n'y a pas beaucoup de réactions du côté des politiques, mais il faut bien se rappeler que M. Bolloré a des tas d'amis en politique et que les amis ne voudraient certainement pas s'en prendre à cet excellent homme d'affaires qui est monsieur Bolloré. Alors bon, il y en a deux, trois hein, qui ont causé la haine quand même, Benoît Hamon, Jean-Christophe Cambadélis. Enfin, bon, je veux dire, on peut pas dire qu'il y a vraiment quand même beaucoup de soutien alors qu'on est en pleine campagne pour les primaires de la droite. Et les... Donc bon, on pourrait s'attendre à ce que ça soit un sujet. Bah, pas du tout. C'est pas le cas. Alors, dans tout ça, lundi, alors je vous rappelle que la grosse colère, elle est contre Jean-Marc Morandini, qui, je vous le rappelle, est mis en examen pour corruption de mineurs aggravée, donc c'est pas rien.
Oui, et puis en fait, le fait qu'il fait des émissions qui sont pas d'information et qui sont quand même très bas de gamme. Sur une chaîne d'information, ça va faire un peu bizarre.
Tout à fait. C'est exactement ce qu'on reproche à monsieur Morandini du côté d'ITélé. C'est que globalement, on est dans la vulgarité et que ça leur plaît pas bien. Alors c'est quand même très très drôle d'avoir eu une chaîne en grève. Et d'un seul coup, vous voyez arriver la tronche de Jean-Marc Morandini qui fait un peu comme si de rien, se sachant tout à fait protégé par monsieur Bolloré. Enfin, c'est vraiment curieux. On hallucine complètement de ce qui se passe sur cette chaîne. Alors, les salariés d'ITélé ont adressé un courrier au CSA qui a été publié par le site de l'Observatoire des médias pour alerter de multiples violations de la convention de la chaîne par la direction. C'est-à-dire, vous savez, hein, tout le monde a un contrat qui est signé avec le CSA dans les médias. Les télés ont des tas de choses à respecter. Il y a une charte et les salariés ont donc pointé du doigt un certain nombre de choses qui ne correspondent pas à ce qui devrait être mis en place contractuellement. Par exemple, juste cet exemple avec monsieur Morandini. Il rappelle que ITélé s'est engagé dans la convention à faire de l'information et à bien faire une différence entre information et divertissement. Et avec monsieur Morandini, on est dans un vague mélange de mauvais goût, comme tu le disais tout à l'heure. Donc là, c'est une des attaques des journalistes d'ITélé. Je sais pas combien de temps sa grève elle va tenir. En tout cas, les journalistes ont fait savoir qu'ils maintiendrait, quoi qu'il arrive, le deuxième débat de la primaire de la droite prévu le 3 novembre et qui sera diffusé par ITélé et BFM TV. Là, les journalistes ont dit qu'ils seraient là, quoi qu'il arrive. Et puis, je terminerai juste en vous signalant qu'il y a une cagnotte en ligne qui a été mise en place sur lepotcommun.fr pour venir en aide aux salariés d'ITélé. La somme récoltée sera reversée aux plus précaires et aux petits salaires au prorata de leur nombre de jours de grève. Voilà, pour le geste de solidarité pour accompagner ces travailleurs Bolloré. Alors, ça va devenir un label, je pense.
Ouais, tu voulais nous parler des profiteurs?
Non, je pense qu'on peut passer tout de suite à la partie environnement. Ouais.
Bon, une petite partie environnement avec deux, trois petites infos. La première, c'est les nouvelles du jour autour de la 45. La 45, c'est cette autoroute qui va être, dont le projet est de relier Lyon à Saint-Étienne. Il y en a déjà une, c'est la 47. Oui, mais là, c'est d'en faire une nouvelle avec plein d'argent en jeu. Et qui c'est qui va gagner? C'est Vinci. Voilà. Alors, il y avait un avis demandé à l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Eh bien, ils viennent de rendre un avis favorable. Donc voilà, tout le monde est content. Hein, une autoroute qui va détruire plein de choses, qui est inutile. Le projet existe, hein, d'améliorer l'autoroute existante, et puis surtout de faire qu'il y ait moins de voitures dans l'autoroute, c'est-à-dire en développant plutôt en développant le train. Mais c'est pas du tout le projet de Wauquiez et de ses amis. Donc voilà, dans l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières vient de leur donner un avis favorable. Triste nouvelle. On va aller au Canada pour parler un peu de Justin Trudeau, hein, qui est un peu à la mode de partout, parce que c'est un jeune premier ministre. Il est ouvert sur certains domaines, sur le cannabis, sur plein de trucs. Il a l'air sympa, tout ça. Mais en fait, par derrière, il l'est beaucoup moins. Alors on l'a vu qu'il négociait le CETA, donc déjà c'est pas bon signe. Et sur l'environnement, là il s'est fait tacler un petit peu, puisque dans sa campagne pour se faire élire, il avait quand même parlé de respecter l'environnement. Sauf qu'en ce moment, il soutient un projet d'oléoduc géant, qui est tout sauf respectueux de l'environnement. Alors, il y a eu mardi dernier, le 25 octobre, un sommet de jeunes syndicalistes à Ottawa. Il est venu et là, il s'est mal fait recevoir. Il y en a qui l'ont tourné le dos et qui ont refusé de lui parler. Ça s'est pas très bien passé. Alors, tout ça pour cet oléoduc, effectivement, qui est un projet porté par une entreprise des États-Unis d'Amérique qui s'appelle Kinder Morgan, qui a pour but de doubler un oléoduc déjà présent, qui relierait Edmonton en Alberta. L'Alberta, c'est là où c'est une région entièrement détruite, hein, pour récupérer du pétrole et du gaz de schiste. Il y a des pétroles de schiste, hein, des pétroles bitumineux très exactement, et de relier Edmonton à Burnaby, qui est à 1000 km de là, qui est juste à côté de Vancouver, pour amener le pétrole à Vancouver, et après il faudra l'en transporter ailleurs. D'ailleurs, écologiquement, c'est une catastrophe, déjà la construction de l'oléoduc, même si c'est en parallèle d'un oléoduc qui existe déjà. Mais surtout, une fois que le pétrole arrive là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir le transporter. Alors là, c'est pas par oléoduc, c'est par bateau. Donc ça veut dire que entre Vancouver et les autres pays du monde où ils vont vendre leur pétrole, et peut-être l'Europe, justement, avec l'accord du CETA, va falloir des milliers de bateaux supplémentaires. Donc une énorme pollution en vue dans les années qui viennent. Alors bien sûr, l'Association des producteurs de pétrole du Canada est contente de l'avancée des négociations, parce que d'après eux, ça va permettre de créer de l'emploi et de la prospérité. Hein, bon, ça crée aussi de la pollution, mais eux, ils aiment la pollution, ils s'en foutent. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit, hein, Justin Trudeau, ce fameux premier ministre si génial, qui a dit que ça va générer $1 milliard de dollars d'activité économique, créer 34 000 emplois par an. Le reste, on s'en fout, hein, quelque part, hein, l'environnement. Face à cet argent-là, on s'en fout. Donc voilà où on en est. C'est pas la première fois. Il y a quelques mois ou quelques semaines, il avait de même donné son accord, hein, ou son avis, son aval, en tout cas officiellement, sur un autre gazoduc, sur un gazoduc cette fois, de Pacific Northwest LNG, dont le but est de transporter cette fois des gaz de schiste, donc d'un hydrocarbure issu de la fracturation hydraulique. Là aussi, avec une augmentation importante de la pollution. Ce qui est intéressant, c'est que le Canada a signé l'accord de Paris. Dans cet accord de Paris, et dans d'ailleurs ce qu'avait garanti son prédécesseur, le ministre conservateur Stephen Harper, il avait dit on va diminuer de 30% d'ici 2030, c'est-à-dire 13 ans, les émissions de gaz à effet de serre du Canada. En exportant beaucoup plus de pétrole et beaucoup plus de gaz de schiste, ils font l'inverse, hein. Il y a une prévision d'augmentation d'un peu importante, de l'ordre de 8 à 10%. Alors comment ils vont faire? C'est juste qu'ils ont menti, mais comme les accords de Paris, il n'y a pas de contraintes, ils s'en foutent, ils ont fait semblant de vouloir réduire, et là, dans les faits, ils font l'inverse. Voilà, mauvaise nouvelle du côté du Canada. Alors, un petit bilan qui est plutôt positif de la part de l'Agence internationale de l'énergie, cette agence internationale qui regarde un petit peu l'état de la consommation, de la production de l'énergie dans le monde. Et elle a noté, cette agence, pour la première fois, une augmentation de la production, de la capacité de production des énergies renouvelables. Et pour la première fois, cette capacité de production des énergies renouvelables est plus importante que celle du charbon. Alors, il y a plein d'explications, hein, certains pays émergents ont misé essentiellement sur les énergies renouvelables, même la Chine mise beaucoup sur l'énergie renouvelable. Voilà, c'est plutôt positif. Sauf qu'il y a un hic, c'est la capacité de production. et la capacité de production, c'est pas la quantité de production. La quantité de production, elle, elle reste encore majoritairement due au charbon, hein, dans le monde. Mais ce qu'a noté l'Agence internationale de l'énergie, c'est que ça va quand même dans le bon sens et qu'il y a une augmentation importante, beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu. D'ailleurs, ils changent leur prévisionnel sur les années futures, puisqu'effectivement, il y a une augmentation d'installation très importante des moyens de production renouvelables, beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu. Alors, toujours dans l'environnement...
Alors, avant que tu passes aux animaux, si tu veux bien, je voudrais juste parler un petit peu d'Engie, qui est en train de faire une mutation, paraît-il.
Engie, c'est ceux...
C'est ex-GDF Suisse.
Voilà, donc qui vend en France du gaz, qui possède la plus grosse mine de charbon du monde, qui est en Australie, enfin la mine la plus polluante du monde, qui est en Australie, enfin qui est un gros gros pollueur quoi, sur la planète, un gros émetteur de CO2.
Numéro 2 du marché de l'électricité en France, voilà un petit peu pour...
Ouais, alors numéro 2 de l'électricité en France, c'est ridicule. Hein.
C'est ça, je vais y venir. Tout à fait, ça fait partie aussi de mon argumentation, mais je te vois que tu réagis au quart de tour. Alors Engie nous a donc annoncé cette semaine que dorénavant, les nouveaux contrats d'électricité pour les particuliers et les entreprises seront des contrats verts.
Ah là là, ils ont mis un coup de peinture.
Alors... Bon,
c'est écrit en vert sur la feuille.
On peut dire
en fait.
C'est plutôt bien. Tous les nouveaux contrats seront obligatoirement des contrats basés sur une électricité verte. On peut quand même penser que c'est plutôt une bonne chose, surtout que les anciens contrats pourront effectivement passer eux aussi sur cette nouvelle offre en vert. Donc on se dit que c'est plutôt bien. Mais comme tu le faisais remarquer, effectivement, c'est une petite part de marché. Hein. Engie, c'est 9%. Donc c'est que dalle par rapport à EDF qui est absolument énorme. Donc ça ne va pas tout de suite tous et toutes nous concerner, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a déjà 3 millions de clients chez Engie, et si ces 3 millions de clients ne passent pas au vert, c'est quand même 3 millions qui restent sur une électricité pourrie. Hein, ça, il ne faut pas non plus l'oublier, parce que dans la communication, on a l'impression qu'Engie, d'un seul coup, mute totalement.
Oui, alors je ne sais pas comment ils vont faire pour produire leurs 9%. Là,
alors ils vont aller l'acheter à l'étranger, ils ont dit.
Ah ouais, parce que Engie, en France, ils ont installé des centrales au gaz, essentiellement, donc c'est ultra polluant en CO2, pas en autre chose, le gaz, ça ne brûle pas trop mal. Bon, voilà. Donc ils vont l'acheter à l'étranger, conclusion, c'est pas positif pour le territoire finalement, et encore moins local comme on pourrait l'imaginer, donc c'est pas du tout vert, quand l'énergie n'est pas produite localement, elle n'est pas verte. Hein. D'après eux aussi, mais pas d'après les règles un tant soit peu écologiques.
Alors évidemment derrière il y a aussi un objectif commercial.
Bah, c'est avant tout ça.
Engie espère conclure 1 million de contrats grâce à cette électricité verte d'ici la fin 2017. Moi j'ai bien lu leur communiqué de presse sur 3 pages. Ce qui est important surtout pour nous consommateurs, c'est que c'est sans surcoût. Hein, parce qu'on se pose toujours un petit peu la question, est-ce que le verre ça va être plus cher? Là il n'y a pas de surcoût, vous pouvez tout passer comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils nous vantent la mobilité, et à travers cette mobilité, on nous vante l'électcar, ça va te plaire, c'est-à-dire nous faire des bagnoles à l'électricité verte.
Ouais, bah si on fait toutes les bagnoles à l'électricité verte, il n'y aura pas assez d'électricité, faut quand même le dire.
Et puis moi, j'ai trouvé aussi qu'ils proposaient 3 offres différentes pour cette électricité verte, dont l'offre Elec Weekend, qui est une offre pour les foyers équipés d'un compteur communicant Linky, qui permet de bénéficier de réductions de 30% sur les le week-end et durant les heures creuses en semaine. C'est-à-dire qu'on essaye de nous fourguer quand même à travers une offre ce Linky.
Ce qui est un énorme espion en fait.
Donc nous n'avons pas envie, vous l'aurez bien compris dans cette émission, on vous en parle de temps en temps. Voilà, donc Engie a réussi à nous replacer ce petit Linky dans son communiqué de presse, c'est très intéressant, et puis il nous parle de cet Electcar. Donc en tout cas, bon, le vert fluo, ça fonctionne quand même toujours très très bien.
Ouais, alors je vais revenir aux animaux justement, avec les mauvaises nouvelles, alors c'est très médiatisé, mais c'est quand même intéressant de leur dire, c'est le WWF qui a un indice qui s'appelle Planète Vivante, qui compte un petit peu ce qui reste des animaux sauvages, hein, pas de l'élevage, parce que là par contre la quantité d'animaux d'élevage est très très importante. Sur les animaux qui vivent librement dans la nature, c'est la catastrophe, hein, plus de la moitié des vertébrés ont disparu depuis 1970. Alors c'est la moitié en quantité, mais la moitié en espèces aussi, hein, parce que malheureusement, certaines espèces diminuent tellement qu'elles s'éteignent, et celles qui ne s'éteignent pas sont dans des conditions de survie ou d'existence très faibles. C'est le cas notamment des poissons d'eau douce, hein, ou des animaux d'eau douce globalement, c'est-à-dire les poissons, les amphibiens et les oiseaux, hein, puisque 81% de la population de ces animaux d'eau douce ont disparu. Alors c'est un choix qui dépend essentiellement des activités humaines, hein, notamment avec l'installation de choses dans des zones humides, comme c'est le cas de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, hein, ce projet qui va détruire une zone humide dans laquelle il y a essentiellement des animaux d'eau douce. Et oui, c'est en faisant ce genre de projet en fait qu'on détruit la planète et l'environnement. Voilà, alors ces chiffres, ils sont très détaillés, il y a plein de choses. Alors ça concerne pas toute la planète, puisqu'il y a des animaux qu'on connaît pas, il y a notamment dans les forêts amazoniennes, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Mais dans nos pays où on a accès à l'intégralité du sol, les constats sont vraiment très très tristes. Et c'est 100% dû à l'activité humaine, hein, contrairement à ce que Sarkozy peut dire sur le climat, tout ça. Là, il va avoir du mal à dire autre chose sur les vertébrés, hein, c'est sur la Terre, grosso modo sur les animaux, sur cette planète, c'est l'intervention humaine qui en est responsable. Allez, deux petites infos sur le nucléaire pour terminer cette partie environnementale. La première, c'est sur Fukushima, puisque encore des discussions et des évaluations supplémentaires sur le coût de l'accident nucléaire. Et surtout le coût du démantèlement. Donc c'est ça concerne la société TEPCO, puisque on apprend que les coûts vont exploser. Alors ils avaient annoncé au départ 18 milliards d'euros le coût de dépollution du site en fait, hein, de démantèlement, de traitement des déchets radioactifs et tout ça. Et alors vraisemblablement ça va pas du tout être 18 milliards d'euros. Ça devrait s'approcher des 88 milliards d'euros, mais les experts disent qu'ils peuvent même pas aller donner le chiffre exact parce qu'ils ont peur que ce soit encore plus, hein. Et notamment pour traiter le thorium. Alors le thorium, c'est le corium, c'est le résidu de fond de cuve, là. Vous savez que la cuve, elle a fondu, hein, dans les réacteurs accidentés parce qu'il y avait plus de refroidissement. Donc le matériau radioactif à l'intérieur, c'est-à-dire les barres d'uranium, ont fondu, sont mélangés avec l'acier de la cuve, ça a coulé dans le fond de la centrale, on appelle le radier, donc en béton, tout ça s'est mélangé, personne ne sait comment l'atteindre, comment le récupérer, comment le traiter, comment le mettre sous terre et espérer que personne n'ira voir. Donc voilà, du coup, cet accident nucléaire devrait coûter 88 milliards d'euros. Alors TEPCO ne devrait pas pouvoir le gérer, donc TEPCO est aidé régulièrement par l'État qui réinjecte de l'argent. Et ça nous permet de rebondir sur un livre de propagande pro-nucléaire qui est sorti, qui est une horreur absolue, qui s'appelle « Vive le nucléaire heureux ». J'invente pas, hein, le titre s'appelle comme ça, Vive le nucléaire heureux. C'est Michel Gay qui l'a écrit. Alors lui se présente comme un simple citoyen, mais en fait pas du tout. Il est membre de l'association des écologistes pour le nucléaire. Alors si vous regardez cette association, en fait ils ont aucune activité de défense de l'environnement, hein, s'ils sont juste pour nucléaire. Il est membre aussi de la Fédération de l'environnement durable, qui est une fausse association de défense de l'environnement, hein, qui est pro-nucléaire aussi, et de la Société française d'énergie nucléaire. Et il nous fait une démonstration dans son livre pourquoi le nucléaire c'est bien, et notamment il essaye de casser le discours des antinucléaires, et il prend 30 propositions des antinucléaires, et il prend 30 propositions qui sont souvent effectivement excessives des antinucléaires, notamment sur le nombre de personnes décédées suite aux catastrophes, à Tchernobyl par exemple. On sait que l'OMS en reconnaît une trentaine, ce qui est plus faible que la réalité. Les écolos, des fois, en reconnaissent beaucoup plus, et les chiffres sont flous parce que la radioactivité, elle tue sur le long terme et qu'on n'a pas de chiffres. Donc il s'appuie sur des trucs comme ça. C'est pareil, il dit on sait pas quoi faire des déchets, mais si on sait quoi faire, on va les enterrer, etc. Ce qu'il oublie de dire, c'est que quand on enterre un déchet puis qu'il y a un accident, ce qui arrive aux États-Unis, on en a parlé il y a pas bien longtemps, ça a coûté plus d'un milliard d'euros de frais, rien qu'un fût qui a explosé dans un lieu de stockage. Alors il dit que c'est pas plus cher que le renouvelable, ben c'est en train d'être faux, hein, puisque c'est démontré de plus en plus. Enfin voilà, tout son livre est un concours de mauvaise foi. Il reprend les arguments qui peuvent être un peu limites ou exagérés des écolos pour les retourner et les casser. Voilà, il dit que l'uranium, ben c'est grâce à ça que la France est indépendante. Alors bien sûr, il est d'accord avec tout le monde, l'uranium est importé. Mais en fait, comme c'est importé, c'est des sociétés françaises qui possèdent les mines, c'est quand même la France. Voilà, il a un discours assez atroce. Il va jusqu'à dire que pour le futur, c'est le seul moyen d'avoir une énergie abondante, sûre et disponible. Alors sûr, on n'en est pas sûr. Disponible et bon marché, comme il le dit, on n'en est pas sûr. Et abondante, ben c'est peut-être la question qu'il faut se poser, parce qu'on peut vivre de la même manière en dépensant deux fois moins d'énergie, et c'est peut-être là où est la solution. Mais comme il n'est pas écolo, et qui fait semblant de l'être. Voilà. Donc méfiez-vous de ce livre. Vive le nucléaire heureux, c'est une horreur. On peut dire que les trois quarts de ces arguments sont faux, et le quart d'argument qui est juste, scientifiquement, est pas défendable politiquement, puisque voilà, on veut construire une société différente. Ou quand il y a un accident, hein, si y a un accident sur une éolienne, ça peut arriver. Bon, bah ça coûte quelques centaines, quelques milliers d'euros, et c'est tout. Quand il y a un accident sur un fût, ça coûte plus d'un milliard d'euros. Un accident sur une centrale, ça va coûter 88 milliards d'euros. Donc voilà, c'est pas le même impact. Le renouvelable, quand il y a un accident, au moins on peut s'en sortir derrière, alors que le nucléaire, personne peut s'en sortir, ni au niveau capitaliste, ni au niveau de récupérer les sols et de les remettre en état, puisque voilà, avec Fukushima, ils savent pas du tout comment faire.
Alors je vais terminer en parlant de l'étiquetage nutritionnel. Alors je vous rappelle que la loi de santé 2016 devait permettre la création d'un logo sur les emballages alimentaires pour identifier facilement les qualités nutritionnelles du produit. Et alors il y a eu deux réactions aujourd'hui. La première, elle vient du Collège de la médecine générale qui a annoncé ce jeudi dans un communiqué dénoncer la méthode discutable du test comparant quatre étiquetages nutritionnels actuellement mené dans une quarantaine de supermarchés français. Alors, pour le Collège de la médecine générale, l'expérimentation lancée fin septembre n'est qu'un prétexte pour enterrer le Nutri-Score, ou appelé aussi le 5 couleurs, le 5C. Alors, le logo Nutri-Score calcule le score nutritionnel, vous l'aurez compris, des aliments, en donnant des points positifs pour les éléments bons pour la santé, les points négatifs pour ce qui est mauvais pour la santé. C'est assez simple. Ça se traduit par une note entre A et E et une couleur allant du vert au rouge. Compréhensible,
très, très simple, voilà.
Lisible. C'était un logo élaboré par une équipe de l'INSERM, recommandé par le Haut Conseil de la Santé publique. Mais ce Nutri-Score est en concurrence avec trois autres systèmes. Le système Sens, proposé par les distributeurs à partir des travaux de l'INRA. Nutri-Couleur, basé sur des systèmes de feux tricolores qui existent au Royaume-Uni. Et puis Nutri-Repère, qui est proposé par les industriels. Donc Nutri-Score a un petit peu un souci, hein, parce que
c'est dommage, parce que c'est très facile à comprendre.
Ouais, et puis c'est le plus intéressant, le plus poussé. Évidemment, c'est pas Nutri-Repère proposé par l'industriel qui va nous aider à bien choisir pour notre santé.
C'est fait pour justement tromper les gens.
Oui, c'est
pour
être un peu
tellement
ça.
Flou et complexe que. Finalement, voilà. Alors ça n'empêchera pas les achats.
C'est ça. Bah, c'est surtout que c'est le Fonds français pour l'alimentation et la santé qui est chargé de mettre en œuvre les tests. Alors, ce qui est embêtant, c'est que ce Fonds français pour l'alimentation et la santé, il roule un peu pour l'industrie agroalimentaire.
Donc, tu veux dire totalement.
Oui, oui, oui. Donc, c'est un petit peu un problème. Alors, l'autre réaction aujourd'hui que j'ai beaucoup aimée, c'est Foodwatch, qui est à la base, je vous rappelle, une association allemande, mais qui s'est bien implantée par chez nous, qui a lancé une pétition adressée à la ministre de la Santé, Madame Touraine, une pétition qui s'appelle « Logo nutritionnel, arrêtez cette mascarade » et qui ont publié aujourd'hui un petit texte pour accompagner le lancement de cette pétition. Un texte que vous pourrez retrouver sur leur site français. Moi, c'est le ton que j'aime beaucoup. Hein. Ils sont juste légèrement énervés. Ils prennent pas des pincettes, donc c'est très très bien. Parce que ce logo, il est en train d'être enterré. Faut être bien clair. On va pas avoir le meilleur. Si on a Nutri-Repère, c'est ce qu'il y aura de pire. Parce que les industriels ont la main sur exactement tout. Et que finalement, tout ça n'aura été qu'une dépense inconsidérée pour rien, comme le fait remarquer le Collège de la médecine générale. Parce que ça a quand même coûté, je crois, 22 millions tout ce test. Hein.
Mais l'idée, hein, c'était d'informer au maximum les consommateurs. Et les industriels sont totalement contre, on rappelle.
Ça ne veut pas dire qu'il faut vous empêcher d'acheter un paquet de gâteaux, mais au moins, il faut que vous soyez conscient ce qu'il y a dans ce paquet de gâteaux par rapport à un paquet d'endives.
Voilà. Tu as acheté des paquets d'endives ?
J'aime pas les endives.
On finit là-dessus ?
Oui, je peux juste peut-être dire qu'aujourd'hui, le Parlement européen a décerné son prix Sakharov. Vous savez, qui l'année dernière avait été attribué au blogueur Raif Badawi. Je vous rappelle qu'il avait été emprisonné pour insulte à l'islam en Arabie Saoudite. Et là, ce sont deux femmes yézidis qui ont été, qui ont reçu ce prix, qui sont nommées pour, enfin, je vais y arriver, qui ont reçu ce prix Sakharov 2016. Ouf, on y arrive. Il s'agit de Nadia Mourad Bassi de Taha et de Lamia Ali Hadji Bachar. Toutes les deux avaient été enlevées par les djihadistes de Daesh, enlevées et forcées à être des esclaves sexuelles. Elles avaient toutes les deux réussi à s'enfuir. Elles viennent du même village, un village qui avait été massacré par Daesh. Pour le Parlement européen, c'est un moyen de mettre un coup de projecteur sur la situation des minorités religieuses dans la région, je cite. C'est assez chouette que ces deux femmes aient eu ce prix Sakharov. Il faut savoir que l'une et l'autre sont toujours très très impliquées aujourd'hui, ils sont très militantes. Donc ça aussi c'est important de le prix Sakharov, il est là pour accompagner des gens qui se battent pour les droits de l'homme de partout sur la terre. Mais c'est important effectivement de aussi remettre ce prix à des femmes qui sont en lutte constante chez ces yézidis. Hein. Il y a, d'après l'ONU, 3200 yézidis qui sont aux mains de Daesh, en majorité en Syrie. Alors, le Parlement européen avait le choix, hein, il faut dire, pour ceux et celles...
Oui, parce qu'il y avait d'autres personnes qui donnaient aussi.
Ouais, on aurait pu parler de Can Dündar, un ex-rédacteur en chef turc, qui est exilé aujourd'hui en Allemagne, qui s'est empressé de dire qu'il était super content. Il était vraiment à fond, ça aussi, c'est très très beau. Et d'ailleurs, il sera présent lors de la remise du prix le 14 décembre prochain à Strasbourg.
Ouais. Juste pour dire, les yézidis souffrent de Daesh, mais pas que. Ils souffrent
de tous les musulmans,
sunnites et chiites, qui sont toujours acharnés sur eux, qui ont toujours été mis au banc de la société. Il y a un vrai racisme contre cette communauté. Et alors Daesh, c'est bien sûr le poussé à l'extrême. Alors juste un petit agenda avant de laisser la place à l'émission suivante. Je vais commencer avec samedi 29 octobre. Ça, ce sera au CCVA, c'est le Centre culturel de la vie associative. C'est à Villeurbanne, 234 Courelmes-Zola. C'est en face de la médiathèque François Mitterrand.
Y a de la maison du livre, de l'image et du son, s'il te plaît.
Pardon, de la MLIS. Y a la fête de la solidarité latino-américaine. Donc voilà, il y a plein de choses, des animations musicales, de la danse, des spectacles, des ventes de spécialités. Il y aura à manger, à boire. Donc voilà, c'est à partir de 20h samedi à Villeurbanne, fête de la solidarité latino-américaine. Novembre libertaire 2016 a commencé, alors bizarrement on n'est pas encore en novembre mais il commence un petit peu en avance, et les premières soirées arrivent. Je vous laisse aller voir sur leur site pour avoir toutes les infos. Je vais en donner deux. La soirée qui a lieu demain, le 28 octobre à 19h, c'est autour du droit à l'avortement, c'est à la librairie La Griffe à partir de 19h demain, donc rue Sébastien Griffin dans le 7e. Et j'irai plus loin jeudi prochain à partir de 18h30 au bar qui s'appelle Les Clameurs, qui est 23 rue d'Aguesseau dans le 7e aussi. Il y a une soirée, un début de soirée, un apéro autour d'un livre qui s'appelle Les Communards à Lyon. Oui, il y a eu des Communards à Lyon en lien avec un peu à l'équivalent de la Commune de Paris, moins important bien évidemment. Donc ce livre, l'auteur du livre, Mathieu Rapp, sera là pour présenter ce livre sur les Communards de Lyon et raconter un peu cette histoire. Donc au bar Les Clameurs, jeudi prochain à 18h30. Voilà, on a tout dit, il est 20h à la pendule de la plus rebelle des radios.
On va laisser la place à la petite cuillère. La petite cuillère a-t-elle un générique? La petite cuillère, générique, générique.
Non, on va laisser les bandes continues le temps qu'ils s'installent.
Générique, et on vous retrouve en tout cas la semaine prochaine. À très bientôt, ciao.
Et demain pour le prochain Canu Info.